RMC, 19h-20h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Et oui, l'Intégral Tour pour évidemment revenir sur cette 10e étape du Tour de France qui conduisait donc aujourd'hui le peloton d'Andorre jusqu'à Revel pour cette 10e étape remportée par Michael Matthews. On va en parler dans un instant avec toute la Dream Team réunie dans le petit camion. Et on va tout d'abord revenir sur le journal des sports avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Christophe, salut à tous.
On va en parler dans quelques instants, mais c'est vrai que Peter Sagan a fait le show aujourd'hui sur les routes du Tour. Show, mais pas suffisant malheureusement.
Et oui, malheureusement pour lui, effectivement, le champion du monde slovaque, il a bousculé le peloton dès les premiers kilomètres. Il a ensuite fait exploser l'échappée du jour à 25 km du terme, mais il s'est incliné dans le final face à l'Australien Michael Matthews, le grand vainqueur de cette journée. Peter Sagan qui avait tout de même le sourire à l'arrivée.
Moi, je suis très satisfait avec ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Revenir en tête du classement par points, c'est quelque chose de très important pour moi. Et ma deuxième place aujourd'hui, excusez-moi, mais avoir tout le monde sur le dos, être seul contre tous, c'était pas facile, vraiment pas facile.
Peter Sagan, après l'étape en direct sur RMC, le coureur de la Saxo-Tinkoff s'empare du maillot vert de meilleur sprinter. Pas de changement au général, évidemment. C'est Chris Froome qui reste en jaune devant Adam Yates et Dan Martin.
RMC, le Mercato Show.
Le Mercato Show. Le Barça prend l'accent français après avoir officialisé l'arrivée de Samuel Umtiti cet après-midi. Le champion d'Espagne s'est mis d'accord avec le Paris Saint-Germain pour le transfert de Lucas Digne. Montant de la transaction, 20 millions d'euros. Les deux défenseurs de l'équipe de France se sont engagés pour 5 ans. Toutes les infos transfert, évidemment, vous les retrouvez sur rmcsport.fr. Et puis toujours en football, la finale de la Coupe de la Ligue ne se déroulera pas au Stade de France la saison prochaine. Une décision annoncée cet après-midi par Didier Quillot. 3 stades ont été retenus, Bordeaux, Lille et Lyon. Le président de la Ligue qui justifie son choix.
Le Stade de France n'est pas le plus fonctionnel d'un point de vue accessibilité, du catering, de la nourriture, des toilettes. Enfin, le stade, il a 20 ans, hein, le Stade de France. Donc, il n'est pas le plus fonctionnel. Et puis, par ailleurs, il faut innover. Et la Coupe de la Ligue, pour nous, c'est la Coupe de l'innovation. Donc, on veut faire des innovations par la Coupe de la Ligue.
Didier Quillot avec Clément Mathis. Une info volée pour terminer, ça vient de tomber. Laurent Tilly vient de communiquer sa liste de 12 joueurs retenus pour les Jeux Olympiques de Rio. Le sélectionneur a décidé d'écarter Julien Linel et Horacio d'Almeida. Les Bleus disputeront le Final Six de la Ligue mondiale à partir de demain en Pologne. Allez, 19h06 sur RMC, on retourne sur les routes du Tour avec les grosses cuisses de Christophe Cessieux pour vous emmener jusqu'à 20h.
Complètement affûté les cuisses, tu rigoles.
Ça ressemble un peu à Peter Sagan, hein, c'est vrai.
J'ai des cheveux à Sagan. Un tout petit peu moins. Non, mais c'est vrai, mais bon, moi je ne suis pas battu aujourd'hui par l'équipe. Merci Benoît, on te retrouve évidemment demain pour les journaux des sports. Nous, eh bien, nous sommes dans notre petit camion avec toute la Dream Team évidemment réunie pour évoquer cette 10e étape du Tour de France remportée par Michael Matthews. On va tout de suite revenir sur le direct, c'était tout à l'heure sur RMC, la victoire de Matthews qui s'impose devant Peter Sagan.
Greg Van Avermaet qui a lancé de loin et qui résiste pour l'instant au retour de Boissanagan le Norvégien qui déboule sur la gauche avec Michael Matthews plein centre. Michael Matthews, 25 ans, l'Australien qui double ce petit monde dans les 50 derniers mètres. Victoire de l'Australien de l'équipe Orica Green Edge. Voilà pourquoi Daryl Impey, le Sud-Africain, a emmené tout ce groupe dans les deux derniers kilomètres. La tactique était évidente, ils étaient en surnombre depuis le début de cette échappée, les Orica Green Edge. Victoire de l'une des stars montantes du cyclisme mondial, Michael Matthews, Australien de 25 ans, déjà vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie, sur le Tour d'Espagne, porteur du maillot jaune sur Paris-Nice après des victoires d'étape. Michael Matthews qui complète son palmarès grossissant.
RMC Tour de France 2016.
Voilà, Michael Matthews, vainqueur du jour, le coureur australien de la formation Orica Green Edge, qui s'est donc imposé tout à l'heure en battant tout le monde et notamment en battant Peter Sagan. On va évoquer tout cela avec Jérôme Pinault qui est à mes côtés, grand sprinter devant l'éternel.
Bien sûr, très grand sprinter, salut à tous.
Alors que Cyril Guimard, lui, était plutôt un baroudeur, mais non, pas du tout, c'était la grosse cuisse, les grosses cuisses de l'époque, c'était celle de Cyril Guimard.
Oh, un peu escargot, un peu limace.
Ouais. Non, ouais, ouais, plutôt vite, aussi. T'allais vite quand même, hein. Tu allais très très vite. Et Thierry Bourguignon.
Pas moins vite maintenant.
Non, il va pas mal.
Il va encore vite.
Thierry Bourguignon, lui, allait un peu moins vite, mais beaucoup plus vite dans la montagne. Salut Thierry.
Ah, ça, en tant que limace, je sais de quoi je parle.
Les sprints, c'était pas ton
si j'avais eu un peu de vitesse, j'aurais peut-être changé les choses.
Ah, Thierry, l'arrivée, tout ça, il faisait deux.
Hein. Ah oui. Ah oui, j'arrivais tout seul, il y avait une occasion de perdre encore.
Bon, tu étais.
N'exagère pas quand même, Jérôme.
Je te
bonjour, messieurs, quand même. Bonjour, quand même. C'est sûr qu'aujourd'hui, si j'étais arrivé avec le groupe de devant, j'avais perdu, hein, c'est sûr. Parce qu'il y avait du beau monde.
Ah ouais, exactement. Il y avait vraiment du beau monde. Une échappée qui s'est donc construite dès les premiers kilomètres de cette étape dans la montée du port d'Envalira. C'est vrai que pour attaquer l'étape, c'était un sacré hors d'œuvre, Jérôme. Hein. Plus de 20 kilomètres de montée, comme ça, à froid, ça fait mal aux jambes, ce genre de truc.
Surtout le lendemain d'une journée de repos, parce que hier, on était repos à Andorre, et quand on est à Andorre, on sait très bien qu'on va repartir et qu'on va forcément remonter.
On dort bien.
Ouais. Et les coureurs, oui, sont pas partis à froid. Hein. J'ai croisé pas mal de coureurs à l'essai.
Oui, on s'échauffe comme ça avant une étape.
Bien sûr.
Quand on sait qu'on va rentrer dans le dur directement.
Il y a deux méthodes. J'ai croisé beaucoup de coureurs aller refaire les 3-4 premiers kilomètres du port d'Envalira et d'autres tout simplement sur home trainer. Mais oui, échauffement obligatoire aujourd'hui. Hier, on a fait relâche, on a un peu rouloté, on a traîné un peu, on a vu la famille, on est sorti un peu du tour. Et là, il faut se remettre dedans parce que sinon, le port d'Envalira, il vous puni et là c'est la journée galère.
Exactement, le port d'Envalira qui a donc permis à 15 coureurs de s'échapper et parmi ces 15 vraiment beaucoup de cadors du peloton, Cyril, hein. Michael Matthews, donc vainqueur de l'étape, Peter Sagan, Boasen Hagen ou encore Greg Van Avermaet qui a été maillot jaune sur les routes de ce Tour de France. Il y avait également dans ce groupe un certain Vincenzo Nibali, ancien vainqueur du Tour, trois Français dont Tony Galopin et Sylvain Chavanel qui font partie des tout meilleurs coureurs du peloton. C'était une échappée royale, Monsieur Guimard.
Elle était royale, mais elle ne pouvait qu'être royale, puisque pour passer dans le groupe de tête au sommet du port d'Envalira à plus de 2400 mètres, il faut quand même avoir de bonnes jambes. Il faut avoir surtout bien géré et bien digéré l'étape de repos. C'est bien échauffé aussi, parce qu'à froid, ça le fait pas. Donc on s'est retrouvé avec une quinzaine d'hommes, et parmi ceux-là, les plus grands champions, dont le champion du monde. On avait aussi, ce qui était assez exceptionnel, un équipier de From, Lambda. Vous savez, celui qu'on a vu là dans toute la traversée des Pyrénées, on a vu pratiquement que lui en tête de peloton et qui assumait le train du train Sky. Et bien aujourd'hui, il était devant, donc il est toujours un petit peu facile.
Ouais. Et ce qui a permis d'ailleurs à son équipe de ne pas rouler, de ne pas faire la course en tête et de ne pas fournir trop d'efforts en tête de peloton.
Oui, je ne sais pas s'ils en auraient fait plus. Pourquoi.
D'ailleurs, non, vous avez annoncé à l'antenne, je vous écoutais, Henao devant. Alors là, je me suis dit, c'est quand même, ils sont très très forts s'ils ont fait ça. La Sky, s'ils ont posé le mec qui a 40 secondes au général. Alors, ils ont intérêt à réagir, les autres équipes, hein, parce que pourrait faire mal.
Henao Borghi, il a fait partie du groupe qui a basculé, hein, au sommet de l'Envalira, et ensuite ça s'est regroupé. À part Sagan et Dumoulin, qui ont été les seuls à résister, ça s'est fait vraiment dans la descente après, dans la traversée du Pas de la Case et dans la descente vers Aix-les-Thermes. Mais au sommet, Henao figurait dans un groupe qui était en train de sortir.
T'imagines s'il se glisse dans un groupe?
On y a bien cru d'ailleurs, parce qu'à un moment donné il y avait hésitation sur l'identité du coureur de la formation Sky qui était devant, et effectivement si ça avait été Henao, il se serait emparé du maillot jaune ce soir en le priant.
Non,
tu crois que
on l'aurait fait relever.
Non. Moi juste pour rigoler, j'aurais aimé pour voir la réaction de l'équipe phare Movistar.
C'est impossible. Enfin, vous savez très bien que
il n'y a qu'une tête.
Il y en a souvent eu deux au sein de la formation Sky, rappelez-vous, par le passé.
On était à plus de 150 km de l'arrivée, c'est pas jouable, sauf que t'envoies, à la limite, tu l'envoies à l'abattoir.
Quoi. Ouais. Mais non, il allait filocher.
Ouais. Bon, en tous les cas, ce n'était pas Henao, c'était Lambda, et au bout du compte, eh bien, c'est Michael Matthews qui s'impose ici à Revel. Peter Sagan, grand battu de la journée, Cyril, il a tout donné, il a tout essayé, il a tenté à plusieurs reprises d'attaquer ses adversaires, et au bout du compte, eh bien, il s'est fait battre par un Australien, Michael Matthews, qui bénéficiait, il faut le dire, de la supériorité numérique dans le groupe d'échappés, puisqu'il n'était plus que 5 à l'arrivée, dont 2 coureurs de la formation Orica. Il y en a eu un troisième qui s'était fait larguer quelques kilomètres auparavant.
Après avoir bien bossé.
Après avoir exactement bien bossé. Et Sagan, eh bien, a été battu logiquement par Matthews qui va voilà, très vite.
Logiquement, on peut pas dire que c'est le grand battu. Il était seul, ils étaient trois. Il a essayé de les encercler, il a pas réussi. Non, il s'est bien battu. Il a joué avec ses armes. Il y est allé à fond. Il savait qu'il avait peu de chance. La chance qu'il pouvait avoir, eh bien, il a essayé. Il a tout essayé.
Il n'y avait pas moyen de faire autre chose.
Non. Un contre trois. Attendez, c'est on vient de le dire. Il y avait que des bons devant, donc
ouais,
c'était pas des prix réclamés qu'il y avait avec là devant. Donc tu peux pas jouer. Il fallait attendre peut-être une erreur, mais il aurait peut-être fallu que Boissenhagen ou que Van Avermaet tente quelque chose. Mais ils étaient secs aussi. C'est difficile de lâcher le Samuel Dumoulin. Il aurait pu tenter quelque chose. Il était sec. Donc en fait, il restait trois hommes forts. Il restait Impe, il restait Matthews et il restait Sagan. À deux contre un, surtout quand vous avez Matthews en face de vous qui va aussi vite, sinon plus vite que vous, c'était pas jouable. Mais il a tout tenté. Beaucoup de... Non, je crois qu'on peut lui
tirer chapeau. Toi qui n'aimes pas le panache, il en a montré aujourd'hui.
Non, mais c'est pas du panache. Mais arrêtez avec le panache, c'est quand on tente quelque chose et qu'on se met dans le mur. Ça, c'est du panache.
D'accord.
Ah, il n'aime pas ce terme.
Ah, non,
il va falloir écrire au dictionnaire d'enlever ce terme.
Quand on évoque ce mot, ça lui file des boutons.
Ah ouais, mais c'est comme ça. C'est comme oreillette. Si tu le prononces bien, tu verras, il y a des boutons qui sortent du nez.
Attends, le panache, c'est derrière, normalement. Hein.
Le panache,
on va voir dans le dictionnaire.
Les chevaux, là, les chevaux. Bon, en tous les cas, victoire de Michael Matthews. Jérôme, un garçon que tu connais, 25 ans. C'est la nouvelle génération, beau gosse, assez fun. C'est un peu comme Peter Sagan, des gens qui font du bien au peloton et à l'image du cyclisme.
Oui, carrément. C'est le genre de coureur qu'on ne voyait pas par le passé. C'est un garçon qui vit avec son temps, plutôt collectionneur de belles montres, de belles bagnoles, de belles gonzesses aussi, parce que ça va avec souvent. Et un peu à la Sagan, il fait du vélo plaisir.
C'est une à vie là maintenant.
Quoi ? Ouais, il va pouvoir s'en acheter un peu là.
Non, il en a acheté une. Il s'est marié.
Ah, il en a acheté une à vie, là?
Ah oui, oui!
D'accord.
Il a troqué les autres.
On l'appelle Bling. C'est pour ça dans le milieu.
Bling, c'est Fred qui nous dit.
Mais c'est vrai que c'est un pur talent, hein. Champion du monde espoir. Il a déjà gagné sur les trois grands tours. C'est un vrai, vrai grand monsieur. Et c'est pas étonnant qu'une journée entre costauds, parce qu'on a passé la journée entre costauds aujourd'hui, il était là et il a bien manœuvré aussi. C'était l'un des seuls capables de battre Sagan aujourd'hui et il a parfaitement joué son rôle.
Il y en a des playboys, Cyril, hein, dans le peloton actuel. Un peu à l'image de ce que tu étais il y a quelques années quand même.
Merci du compliment, mais j'ai du mal à croire qu'il soit vraiment sincère.
Est-ce que tu as un tatouage dans le dos comme Michael Matthews? C'est quoi?
C'est pas l'époque, hein, c'est ça.
Un petit tatouage avec un cœur et un maman.
Je n'ai pas de tatouage et quand j'étais jeune, c'était pas la mode. Il faut quand même savoir que pendant la guerre, le fait d'avoir des tatouages, lorsque vous tombiez dans la...
C'était un mauvais garçon.
Voilà. Non, c'est pas seulement ça. Si vous étiez dans la résistance et que vous pouviez être ou collabo éventuellement,
oui,
et que vous pouviez être repéré par vos ou agents secrets par vos tatouages, vous étiez mal, quoi.
Ouais, donc
c'était
coup,
pas c'était
tu as
pas
préféré
dans
éviter
mais t'as pas fait la guerre, c'est
la Gestapo. Il a préféré éviter la guerre.
Il va nous faire croire qu'il a fait 14-18.
Je me suis cultivé, j'ai lu un peu.
Bon, il va nous faire croire qu'il a fait 14-18.
Un mot malgré tout sur Michael Matthews. Fait du bien ce garçon, Cyril.
Il a fait.
Comme Peter Sagan, comme Tom Dumoulin aussi, il y a un paquet de playboys aujourd'hui dans le peloton, hein.
Oui, ben les autres le sont moins, ils sont un peu vieux, donc mais c'est vrai qu'on a une génération de coureurs qui sont attractifs, qui ont de la personnalité, du charisme et qui ne sont pas faits sur le même moule, ou tout du moins, mais c'est aussi un petit peu obligatoire parce que si vous prenez Matthews, il vient d'Australie, donc il n'est pas de la vieille Europe. Sagan, il n'est pas de la vieille Europe non plus, il arrive d'ailleurs, voilà des garçons qui arrivent avec leur culture, leur côté un peu fun. Souvent ils ont fait du VTT ou d'autres activités.
BMX pour Michael Matthews.
Et BMX pour Michael Matthews. Donc ils viennent d'un autre d'un autre système de type de sport, même si c'est avec deux pédales et avec un guidon. Donc ils viennent avec autre chose. Il y en a qui viennent du VTT. Donc ils ne sont pas aussi conformistes que nous on l'était, ou que ceux qui n'ont fait que de la route le sont.
Ouais. Michael Matthews, donc vainqueur de cette 10e étape du Tour de France. On va écouter tout de suite la réaction du champion australien tout à l'heure après la ligne d'arrivée franchie.
It's unbelievable.
C'est incroyable.
At the moment, it's just sinking
c'est
in,
incroyable. Mon émotion aujourd'hui est indescriptible. Remporter une étape sur cette course, c'est incroyable.
This race maybe is not for me. I'd maybe just focus on other races.
Depuis le début de ce tour, j'avais peiné et je me demandais si cette course était finalement faite pour moi. Je me demandais, j'avais des doutes. Et aujourd'hui, cette victoire vient effacer tous ces doutes.
Michael Matthews qui signe là une première victoire sur les routes du Tour. Il avait déjà remporté des étapes sur la Vuelta et sur le Giro. C'est bien comme ça hein, d'avoir son palmarès en
à 25
de victoires sur les trois grands tours.
À 25 ans, et je peux vous dire qu'il y a un paquet de coureurs et un paquet de Français notamment qui peuvent envier ce palmarès parce que déjà vainqueur sur les trois grands tours, sur Paris-Nice, sur le Dauphiné, il gagne sur toutes les courses World Tour. Donc c'est vraiment le talent à l'état pur et il le dit aujourd'hui et ça montre la dimension qu'a cette course dans le monde entier. On le rappelle, il est australien. Il dit aujourd'hui, c'est mon rêve. Il vient de réaliser son rêve. Ça veut dire que voilà, il est là. Il met aussi, lui aussi, le Tour de France au-dessus de toutes les autres courses. Et aujourd'hui, il a manœuvré à la perfection. Ouais. Et
même s'il nous disait tout à l'heure pendant le direct que le Tour de France n'était vraiment pas sa course préférée. Le Tour de France est un peu un passage obligé.
C'est pas dans ce sens-là.
Il va changer d'avis.
Non, il souffre trop pour aller gagner.
C'est à cause des gamelles parce que là, il prend, sur le Tour de France, à chaque fois, il s'est pris des gamelles.
L'an dernier, il a pris cher.
Il était rampé de partout.
Ouais. Non, mais c'est pas ça. Plus, tu sais, tant que t'as pas gagné l'étape, je pense que quand tu passes à côté, tu subis plus parce que c'est grand le tour et quand t'es pas acteur principal, tu vois tous les autres briller et toi t'es un peu dans l'ombre. Et il s'appelle Bling Matthews, donc il aime bien. Et là, aujourd'hui, il a gagné. Moi, je peux te dire que ce soir, le tour, il l'aime et il voudra y revenir tous les ans.
Et on parlera justement tout à l'heure d'un Français qui, lui, ambitionne d'aller peut-être sur un autre grand tour pour essayer de le remporter. Thibaut Pinot, on en parlera tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émotion de l'émission. On va vous donner l'émotion.
C'est l'émotion. C'est Michael qui dégage l'émotion. Ça.
Mais c'est ce que j'aime aussi. C'est après l'arrivée, mais on le voit exploser de joie. Et là, on voit un vainqueur qui est heureux. Et moi, j'en ai marre de voir des mecs qui sont tout tristes.
T'en as vu beaucoup des tristes décrocher une victoire d'étape
Ils dégagent rien. Ils dégagent pas d'émotion. Ils font pas partager quoi que ce soit.
Cavendish quand il remporte des étapes, il exprime sa joie.
C'est
rare.
Rappelle-toi l'autre jour quand il remporte sa première étape.
Cette année. Oui. Je l'ai vu il y a 3 ou 4 ans ou il y a 5 ans.
Il en a gagné 29.
Tu l'aimes pas. C'est un mauvais garçon.
Bon, alors les classements.
Je ne laisserai pas dire ça, messieurs.
La victoire de Michael Matthews, l'Australien de la formation Orica, devant Peter Sagan et Edouard Bossenhagen. Greg Van Avermaet est 4e et le premier français, c'est Samuel Dumoulin. On parlera de lui dans quelques minutes. Au classement général, pas de changement.
Chris, il a fait une balade aujourd'hui.
Chris, petite balade. Hein.
Chris, il a mis un gars devant. Il est resté aux avant-postes. Ils ont été un peu vigilants quand même à 25 km de l'arrivée. On a tenté un petit coup de bordure, il y a eu un petit coup de vent, mais pas de panique. On l'a vu même rigoler. Et moi, l'image qui m'a un peu sauté aux yeux et qui quelque part me chagrine pour la bataille annoncée, c'est qu'il était en grande discussion, en grande rigolade avec Richie Porte, qui est l'un des seuls à pouvoir l'attaquer dans les prochains jours. Peut-être que ces deux-là sont tout simplement trop copains pour se la mettre et on risque de s'ennuyer s'ils sont copains
l'étape en Andorre, franchement, il l'a emmené plutôt que l'attaquer.
Le classement général, donc on vous en a parlé, toujours Chris Froome en jaune demain matin au départ de la 11e étape, 12e étape, je sais plus, 11e ou 2e demain. Donc ce sera 11e. La 11e demain, c'était la 10e aujourd'hui. Et puis le classement par points, le maillot vert qui change de leader puisque Cavendish a laissé son beau maillot à Peter Sagan. C'est là le lot de consolation, je vais pas y arriver ce soir. Le lot de consolation pour Sagan ce soir.
Il a mal digéré l'étape de repos.
T'as trop dormi, Christophe.
C'est lot de consolation, oui et non, c'est le son objectif. Après les victoires d'étape, il a pris le maillot, il a gagné des étapes, donc maintenant il va asseoir sa suprématie sur ce maillot vert. C'est son maillot, le maillot vert, parce que quand on a un coureur comme ça qui est capable de gagner au sprint, qui est capable de gagner au sommet d'une bosse de 3e, 4e catégorie et qui est capable d'aller attaquer dans l'école comme en Valira pour aller chercher des points dans les étapes un peu difficiles, on voit pas bien qui peut l'inquiéter. Hein,
c'est vrai qu'on se posait la question en début d'émission cet après-midi, Cyril, de savoir si Cavendish pouvait ravir le maillot à Sagan sur les Champs-Élysées, mais là, Sagan a remis les choses au point. Il a 38 points d'avance ce soir. Rien n'est fait encore. Et puis, on se pose la question de savoir si Cavendish va non seulement remporter ce maillot, mais surtout aller à Paris. Hein.
Oui. Disons que Peter Sagan a remis l'église au milieu du village, juste à côté de la mairie. Il a démontré qu'il est le coureur type pour le maillot vert, puisque il est capable de gagner dans toutes les circonstances, sauf les arrivées au sommet, les arrivées au sommet des cols. Bon, est-ce que Cavendish va être un adversaire pour lui jusqu'à Paris? Est-ce que le fait même que Cavendish n'ait plus le maillot vert ne va pas faire en sorte de lui permettre de quitter le Tour sans se culpabiliser de partir avec le maillot vert comme l'a fait Greipel sur le Tour d'Italie avec
Jérôme n'est pas d'accord.
Non, je sais pas que je suis pas d'accord, c'est que j'ai discuté avec Marc et il m'a répondu qu'il avait beaucoup trop de respect pour le Tour pour le quitter et que ce sera le Tour qu'il mettra dehors dans les 4 derniers jours dans les Alpes, mais lui il quittera pas le Tour, il veut finir le Tour, c'est son objectif, il veut essayer de gagner sur les champs parce que c'est l'avenue où il faut gagner quand on est sprinter, donc pas pour l'instant de projet. Et je pense que voilà, il a gagné des étapes, ça l'a un peu réveillé. Et je connais son orgueil, il va pas lâcher l'affaire comme ça. Et demain à Montpellier, il sera dans l'emballage final, c'est sûr.
Bon, il ira au bout, monsieur. Il ira au bout.
Il ira au bout. Moi, je pense que non.
Il n'a pas dit qu'il ira au bout. Hein. Il a dit qu'il veut aller au bout et que si le tour le met dehors.
Il veut. Si le tour le met dehors, c'est facile. Hein.
C'est facile.
Il suffit d'arriver hors délai. Hein.
Messieurs.
Il suffit d'arriver
hors délai. C'est son copain, Marco. Il va pas balancer sur Cavendish, Jérôme.
Tu le vois avec les yeux de l'amour, là.
Mais il veut peut-être gagner Paris aussi.
Écoute, ça a quand même un peu plus de gueule qu'un Greipel qui bâche avec un maillot de leader sur le Giro en disant ciao, je prépare le tour.
Tout à fait d'accord, j'ai trouvé ça.
Il est incroyable. Très bon en tout cas dans sa communication.
Non, c'est pas bon
c'était
pour le
pas
tour.
Acceptable.
C'est pas bon pour le vélo, c'est pas bon pour. Ouais.
Non, c'est clair.
Quand on est leader d'un classement, il faut aller
par
au
respect,
bout.
Oui.
Mais ça
respect,
c'est un problème de respect.
Même quand on est un acteur principal de l'épreuve, le tour est un grand feuilleton finalement, et Cavendish fait partie des acteurs principaux, donc il sait, il vend des choses autour de lui aussi. Hein, faut pas oublier ça. Hein. Dimension Data, c'est pas Dimension Data qui l'emmène au jeu, c'est l'équipe d'Angleterre, donc il a un gros contrat avec son équipe. Et il a intérêt de tout
parce
donner.
Parce qu'il y a du business derrière.
Mais un peu, tu connais pas ça, le business, toi, Cyril.
Les Anglais sont très forts en business, Cyril. Hein. Ils sont passionnants en business. Hein. On rappelle qu'ils ont remporté 4 étapes sur 10.
Ils occupent les deux premières places du classement général.
Les deux premières places au général. Donc,
tu voulais faire quoi? Les Anglais sont sortis de l'Europe, on n'allait pas les sortir du tout encore.
Ils sont sortis de l'Europe, il y en a d'autres. Allez, on revient dans un instant sur les Français, parce que les Français n'ont toujours pas décroché la moindre victoire d'étape cette année. On est à mi-tour et toujours pas de victoire. Faut-il s'en inquiéter? On en parle dans un instant sur RMC.
RMC, 19h-20h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Toujours en direct de Revel au terme de la 10e étape du Tour de France, remportée, on vous l'a dit donc, par l'Australien Michael Matthews de la formation Orica devant Peter Sagan. Chris Froome est toujours en jaune. Et nos Français, où sont-ils, nos Français? Bien aujourd'hui, ils se sont montrés, puisqu'ils étaient 3 dans l'échappée, qui comprenait au départ 15 coureurs, et pas des moindres, hein, Tony Galopin, Sylvain Chavanel, Samuel Dumoulin. Du coup, on a bien cru qu'un des 3 allait pouvoir décrocher la victoire d'étape, même si on l'a dit il y a quelques instants, il y avait du beau monde. Mais Chavanel, Galopin, Dumoulin, c'est quand même là aussi du beau linge français, Jérôme.
Ouais, c'est ce qui se fait de mieux, hein, dans ce genre d'étape. Alors on enlève les purs grimpeurs, hein, Bardet, Barguil, Pinot, mais oui, c'est ce qui se fait de mieux. Mais bon, on n'a pas Tony Galopin, du grand Tony Galopin, ça c'est sûr. On a un grand Tony Galopin aurait accompagné Sagan et les autres vers l'arrivée. Sylvain a été un peu juste, j'ai l'impression, parce que à la première accélération, sans avoir trop collaboré dans l'échappée, il n'a pas pu suivre. Par contre, grosse belle surprise, et c'est Samuel Dumoulin qui confirme qu'il a de bonnes jambes, l'ancien, parce que il a bientôt 36 ans comme moi et il est présent.
Et lui, il est encore sur le vélo, hein.
Et lui encore sur le vélo. Eh ouais, mais il est encore très performant.
Ah, mais il prend moins le vent.
Ouais, il est tout petit. Hein, ouais.
Mais c'est une teigne, parce que aujourd'hui, pour s'accrocher comme il a fait, on l'a vu, il n'était pas rassuré ce matin. Il me dit au village départ, tu sais, l'année dernière fois qu'on est passé en Valira, j'ai pris 25 minutes. Je vais essayer au moins d'en perdre que la moitié aujourd'hui. Et finalement, il a basculé devant. Il est en grande forme. C'est un gros caractère. C'est un très très gros caractère. Et aujourd'hui, en plus, ce qui est beau à voir, c'est que voilà, ça fait pas un résultat. Cyril va me dire ouais, mais ça fait pas gagner. Mais il a pris du plaisir. Il est souriant. Il s'est éclaté aujourd'hui. Et c'est c'est une bonne chose parce qu'il fait partie de cette ancienne génération finalement qu'on a tendance un peu à mettre de côté, à dire voilà, là, les nouveaux ils sont où, ils sont pas là. Aujourd'hui c'est quand même la vieille garde qui est là, hein, parce que si on attend les jeunes aujourd'hui, il n'y a pas de Français devant. Hein.
Parce qu'il y a une journée de repos, les vieux ils se reposent mieux.
Ouais, pourtant, normalement, la jeunesse avec
plus de jus.
Mais nous, dans les communiqués des attaques dans Valira, on a plus entendu de Français en difficulté qu'à l'attaque. Et étonnamment, oui, on aurait pu penser avoir les jeunes grimpeurs, les jeunes fougueux à l'avant. Après, journée de repos, on récupère mieux, machin.
On aurait pu imaginer aussi Thibaut Pinot qui a fait le classement de la montagne, l'un de ses objectifs. Il y avait aujourd'hui un seul col à franchir. Il aurait pu aller chercher des points.
Thibaut, il a pas mal essayé dans la montée dans Valira, mais il a pas réussi à se détacher. Ça a été très tendu, hein. Il y a eu une belle bataille dans Valira, et bon, il a été un peu marqué aussi par ses principaux adversaires, et bon, c'était une étape un peu compliquée pour Thibaut, et pour lui finalement il y avait aucun intérêt. Si lui se reprojette maintenant vers la conquête du maillot à poids, pourquoi pas une victoire de prestige au Mont Ventoux, puis aller chercher des gros points dans les Alpes. Aujourd'hui c'était un peu trop parce que ils ont quand même laissé du jus. Sylvain m'a dit, ça a roulé plein pot toute la journée, on s'est pas regardé, ça a vraiment bien roulé. Thibaut Pinot aurait laissé des plumes pour rien pratiquement. Donc à part aller chercher des points là-haut, il avait aucun intérêt à faire partie de cette échappée. Quand on voit comment ça s'est terminé,
mais il aurait pu chercher les points et ensuite.
Les points pour le coup, il y a eu des. Ouais, ça a été la baston, et il le dit depuis le début. Il a pas les cannes pour être comme il a été au Romandie. Donc il a été plutôt sur la retenue aujourd'hui.
On va évoquer le capitaine. Oui, Cyril, tu voulais ajouter un mot.
Le problème c'est que bon, il devait essayer éventuellement de tester Machka, parce que c'est Machka son véritable adversaire aujourd'hui, bien que Dumoulin
Froome.
Oui, enfin, en dehors de cela.
Mais là, c'est pas un adversaire, Froome, c'est autre chose.
Et donc, le problème, c'est que Machka l'a pris à la culotte et qu'à partir de ce moment-là, il pouvait pas aller dans le coup. Donc, il était obligé de se relever. Mais il est évident que s'il se retrouvait dans l'échappée devant, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux à faire. On court pas deux lièvres à la fois, sinon on tire au milieu et on touche personne. Hein.
C'est un peu ce qu'a fait l'équipe Direct Energy aujourd'hui. On a un peu tiré au milieu. Ouais. On avait Sylvain devant, on a hésité à rouler sur Sylvain au départ. Finalement, on s'y est pris un peu trop tard. On s'est aperçu qu'on n'avait pas les
communication cannes. Ou tu mets ça comment ça?
Tu sais, c'est difficile hein, quand t'es un coureur comme Sylvain Chavanel de dire écoute Sylvain, on va te rouler dessus. Après, Sylvain a certainement communiqué en disant voilà, je vois bien que les gars sont plus forts que moi. Et puis, est-ce que Brian a pris la responsabilité de dire oui, d'accord, on y va? Est-ce qu'il a pas trop attendu? Je sais pas. Ce soir, on sait pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a été un peu étrange cette situation. Mais bon, quoi qu'il arrive, avec les machines qu'il y avait devant, avec les broyeurs de pédales, il n'y avait aucun espoir d'aller les chercher. Il fallait vraiment être...
Il fallait venir avant qu'il y ait 6 ou 7 minutes, c'est-à-dire qu'il fallait venir au moment où les Katouchas sont venus. Ouais, les Katouchas sont venus, il y avait 2 minutes, ils ont mis 2 gars à la barre. C'est à ce moment-là qu'il fallait mettre 2 ou 3 gars tout de suite.
Mais là, le truc, c'est que...
Il ne savait pas encore pour Chavanel s'il avait les cannes ou pas.
Et Christophe est rentré plus vite que Brian. Et Brian est rentré un peu après Christophe, et je pense que quand on est comme ça pendu en haut du port dans Valira qu'on rentre, on n'a pas tout de suite envie de prendre la responsabilité de dire on chasse et je vais gagner quoi. Donc ça a pris du temps, et puis avec des on répète qu'avec des machines comme ça devant, 6-7 minutes c'est fini.
Hein. Des machines comme ça, si t'es pas sprinter aujourd'hui devant, tu gagnes pas. Hein.
Non, et puis c'était costaud aussi Bourgui, parce que je te dis pas les relais, fallait pas avoir des cannes de sein là aujourd'hui. Hein.
Mais en plus oui c'est vrai. Mais regarde Sagan. Bon, c'est peut-être son maillot vert qui le fait perdre aujourd'hui, parce qu'il va à la chasse au point et il fait des efforts, il mesure absolument pas ses efforts, il fait pas attention à ce qu'il fait, il en fait un peu trop peut-être, mais bon, c'est payant s'il ramène le maillot vert. Là j'ai cru voir la même étape que Gap. En fait, il était très costaud, puisque c'est lui qui fait péter sur le coup de bordure, c'est lui qui essaie de faire casser encore le groupe pour essayer d'esseler les Orica. Parce qu'ils étaient trois encore.
Moi je vais te dire, je suis pas content après lui parce qu'il a fait péter les Français.
Ah ben oui, il est pas là costaud. Pour les garder.
Il était costaud, mais il a peut-être trop fait parce que.
Mais oui, mais chaque fois.
Ouais, parce qu'il y a ce maillot vert. Mais qu'est-ce que c'est bon à voir aussi quand même. Parce
ça c'est clair.
Cyril, on en a marre un peu.
Autant Cyril, je le critique quand il dit qu'il aime pas panache, mais là à 3 watts de panache, ben faut savoir ce que tu veux. Ou tu chasses le maillot vert. Ou alors, tu sais que tu vas hypothéquer, parce qu'aujourd'hui, il savait très bien qu'il laissait des plumes tout le long quand même. Hein, il a pas lésiné sur l'appui de pédale. Hein.
Ah non, c'est clair, il a été généreux.
C'est un garçon qui a un formidable palmarès, mais quand on regarde ses deuxièmes places, on se dit qu'il est quand même passé à côté d'un encore plus grand palmarès.
Vous savez ce que disait Poulidor?
Non.
Beaucoup de places de deuxième et quelques belles victoires, ça finit par faire un beau palmarès.
Bien sûr.
Non, mais c'est non, sûr. Mais c'est... On se contente de ce qu'ils ont.
Quand on est champion du monde, de toute façon,
et lui, aujourd'hui,
ça fait déjà pas mal.
Ouais, et aujourd'hui, il porte un maillot sur le dos et qui prend tout son sens. Il est champion du monde. C'est le plus fort du monde. C'est le plus complet des coureurs en ce moment. Il peut tout faire. Il est juste magnifique.
Quand on le voit dans une échappée, ben on sait que les autres vont pas collaborer à 100%.
Et il assume ce rôle, c'est ça qui est encore mieux.
Oui, c'est pour ça.
Il a pas cherché à discuter, à faire un plan au pied de la bosse, à une attaque, deux attaques, laisser les gars, j'y vais. Il est allé assis sur la selle. Quand Impey a voulu attaquer dans le final, il a juste accéléré Impey la deuxième fois. Il a eu à peine pu le passer. C'est la classe à l'état pur.
Bon, messieurs, on revient sur les Français si vous le voulez bien, parce que je sens que vous voulez parler de ce sujet-là. Hein. Donc je le disais. 10e étape, toujours pas de victoire d'étape française. Au classement général, c'est un peu compliqué, mis à part pour Romain Bardet. Est-ce que les Français sont en train de rater leur Tour de France, Cyril Guimard?
Bien, on est bien parti pour. Hein. On est bien parti pour. Et c'est vrai qu'au départ, on attendait autre chose des Français. On était même confiants pour eux. Compte tenu, d'ailleurs, et on avait de la matière pour cela. C'est-à-dire que les résultats des Français depuis le début de l'année, leur progression depuis 3 ou 4 ans, nous laissaient espérer des Français compétitifs au plus haut niveau, que ce soit pour les arrivées au sprint, même si on a eu une très belle deuxième place de Brian Coquard à Limoges. Au classement général, on n'a plus qu'un seul coureur placé véritablement, ou tout du moins pour pouvoir jouer sur le podium, et tous les autres ont reculé pour diverses raisons, peu importe, mais collectivement on est quand même en deçà de ce qu'on pouvait espérer, et on peut se poser la question de savoir est-ce que les Français vont pas rater leur tour.
D'autant plus que le tour de cette année est très dur, et que les seules parties où on pouvait espérer voir des Français sur des échappées long cours, ben ça vient de passer quand même. Hein.
Ouais, mais on a quand même des Ouais, mais on est quand même dans un registre différent des années où j'étais coureur, où on cherchait l'étape baroudeur entre guillemets, avec un peu de chance qui arrivait au bout. Là, on a Barguil qui est 15e du général, Pierre Roland qui est pas loin mais qui a chuté, qui a perdu du temps, mais qui était en canne, Pierre Roland, quand même, dans les Pyrénées. Avant sa chute, il était là, il a été un peu en difficulté.
Il a souffert aujourd'hui. Hein.
Mais il a souffert aujourd'hui, la fin du tour est vraiment très difficile. Après, on peut s'inquiéter, effectivement, c'est que nos fers de lance pour classement général sont passés à la trappe, ils disent qu'ils sont pas bien, et on a Romain Bardet, qui pour moi est le meilleur d'entre tous, et je pense qu'on ne pouvait pas me contredire. Il est trop prêt pour pouvoir essayer de gagner une étape.
Oui, non, mais c'est
évident. Même les autres, je veux te dire.
Comme je l'ai dit, il peut pas chasser deux lièvres à la fois.
Et
il est sur le général.
Barguil, il n'est qu'à 2 minutes 50.
Voilà.
Oui, mais il peut
2 minutes 50. Qu'est-ce que tu veux qu'il te le laisse partir?
De toute façon, aujourd'hui, Barguil, il gagne pas non plus.
Non, il aura
pas
la jambe. Par contre,
vers le Ventoux, à la limite, il faut presque espérer qu'il y ait un coup de bordure demain, que Warren prenne 7 minutes, et là, tu peux espérer d'aller dans l'échappée. Si tu vas, t'arrives au pied du Ventoux dans une échappée que t'es à 2,50 du général, ça va rouler derrière toi, il a pas les moyens d'aller
jusqu'à là. Qu'est-ce qui vaut mieux, Thierry? Aller chercher une victoire d'étape sur les routes du Tour ou essayer de rentrer dans le top 10?
C'est une étape sur le Tour. Hein.
Ouais.
Et même pas en rêve, hein, 15e, même 10e, premier français, tu sais, on a eu des trucs honorifiques, c'est bien.
Ça a un sens quand t'es dans les 5 premiers. Quoi.
Mais non, mais c'est bien. Mais même, 5, je vais te dire, je suis pas sûr que
dans les top
5e au général vaut plus qu'une étape, une belle étape du Tour. Hein. Alors là, moi, je signe pour l'étape du Tour.
Ah, moi aussi, bien sûr. L'émotion de la victoire, c'est autre chose.
C'est ça le problème.
Mais c'est Bourgui, c'est pour le coureur. Est-ce que les managers ont la même idée? C'est pas sûr. Hein.
Eh ben, parce que on se dit, on est les premiers, on est le premier français, on est pas mal. Mais bon, une étape du Tour, ça reste
une place de dixième, ça reste pas dans l'esprit du public.
Bien sûr.
Parce qu'il n'y a pas d'émotion. Tu fais dixième parce que t'as filoché et que t'as été là pratiquement tous les jours. Si on parle, par exemple, de Pierre Roland, c'est pas avec les places qu'il a fait aux environs de la 10e place sur le Tour de France, c'est parce qu'à certains moments, il a créé de l'émotion en allant chercher des belles gagnes.
Exactement. Il n'y a que la victoire qui reste.
Comme celle de l'Alpe d'Huez. Donc, sa victoire à l'Alpe d'Huez va renforcer sa 10e place ou sa 9e place ou sa 8e place au classement général. Mais si vous faites que 8e, le nombre de coureurs qu'on fait 10e, vous pouvez me dire depuis 20 ans, vous pouvez me dire le nom du coureur qui a fait 10e du Tour de France.
C'est sûr.
Je vais t'en citer un, Christophe Moreau. Pour moi, Christophe, il est passé à côté de quelque chose parce qu'il aurait
préférable. Il aurait été préférable pour lui de gagner une belle étape sur le Tour que de faire premier français.
Mais aujourd'hui, Christophe, il partait dans le Tour en disant je fais le premier français. Attends, les grimpeurs, ben non. Ou alors des fois, il allait faire les points, on ne sait pas pourquoi. Il était toujours à côté du sujet.
Non, il faut se tenir à l'objectif premier.
Ce qui peut nous rassurer sur les Français. Parce que voilà, on est déçus, on parle avec le cœur, on est un peu déçus, ils sont pas là. Mais c'est quand même des gamins qui ont du panache. Que tu freines pilot.
On t'a dit que le panache, c'est comme les oreillettes, tu ne le prononçais plus.
Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est des gamins qui vont attaquer. Dès qu'ils vont avoir les moyens de le faire, dès qu'ils vont pouvoir, en montagne, on a parmi eux que des grimpeurs. Aujourd'hui, il aurait été ridicule de voir un Barguil ou un Pinot dans l'échappée. Même un Pierre Roland. S'il récupère bien un Pierre Roland, par exemple, de ses blessures, c'est sûr qu'il va passer à l'attaque. C'est sûr. Il va pas finir son Tour comme ça. Et Barguil, c'est pareil. Et Bardet, c'est pareil. Et Pinot encore. Et même le champion de France, Arthur Vichot, qui était pas très en canne aujourd'hui au départ. Peut-être, voilà, sur une journée ou deux. En tout cas, ils prendront des risques. C'est pas des suiveurs. On a eu une période où on avait des mecs capables, voilà. Je vais pas être gentil, mais Jean-Christophe Perrault, moi, m'a jamais fait rêver. Il suivait.
C'est sa façon de courir.
C'était sa façon de courir. Aujourd'hui, ils ont pas cette façon de courir là. Alors, je sais pas comment Cyril va appeler ça. Moi, j'appelle ça du panache. comme tu veux, Cyril. Mais en tout cas, voilà, ils vont attaquer. C'est
le
sûr.
Le panache, c'est quand tu fais n'importe quoi et que tu te retrouves à la rue. Quand tu gagnes, ça veut dire que tu as bien couru, que tu as fait les efforts au moment où il fallait.
Mais Cyril, c'est à un moment donné, la frontière, elle est invisible. Tu prends des risques.
Du panache, vous avez parlé de panache l'autre jour. Quand Alaphilippe, il sort à 1,5 km de l'arrivée. Quel panache Alaphilippe! Sauf qu'il a failli,
sauter. Il a failli ne pas basculer avec eux.
Ouais, et il a perdu son maillot blanc. C'est ça que vous appelez panache?
Non, moi ce que j'appelle du panache, c'est qu'à un moment donné, tu le dis toi-même.
Bon, il a attaqué.
Pour
bien.
Gagner, il faut prendre le risque de perdre. C'est ça le panache. À un moment donné, si tu prends pas le risque de perdre, tu vas pas gagner d'étape. Il doit.
Ça n'a rien
Barguil,
à voir,
s'il veut gagner au Mont Ventoux,
mais non,
il sait
tu l'appelles
très bien qu'il faut
comme
pas qu'il attende.
Mais c'est vrai que je suis d'accord avec Jérôme. On a des Français qui prennent des risques. Alors tu l'appelles comme tu veux, j'en ai marre de voir le Tour de France. Il y a 10 ans qu'on suit un train. Alors qu'il soit bleu,
alors,
jaune.
Tiens, justement,
je sais pas quoi.
Thierry, on va accueillir Vincent sur ce sujet-là qui nous a appelé au 32-16 et qui voulait intervenir sur son impression générale du Tour de France. Bonsoir, Vincent.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Vincent.
Salut Vincent.
T'es pour le panache ou contre le panache?
Non. On a enfin vibré sur le Tour. Premier jour où on vibre sur le Tour. Ça, déjà, c'est agréable. Faut en profiter. On va pas revenir sur Sagan, vous avez déjà tout dit.
Panache, donc.
Sagan, c'est plus du panache, c'est la classe. Ça fait deux ans que c'est lui qui nous donne envie de regarder le Tour.
Exactement.
Va falloir qu'à un moment, on se rende compte, on s'ennuie. Le Tour, il est plié. Ça fait une semaine et demie que le Tour est parti. Il est plié. Et voilà. J'aimerais que Quintana ait le même panache, alors faut pas le dire, que Sagan, quoi.
Ah ben non. Mais alors là, c'est non, les deux extrêmes.
Vincent.
Alors, c'est les deux extrêmes. T'en as un qui transpire rien du tout, et puis l'autre qui est exceptionnel.
On parle de panache, etc., mais on peut pas dire, Vincent, que le Tour est mort. On a 8 coureurs en 45 secondes aujourd'hui. Et ça fait combien de temps que c'est pas arrivé? On a passé un massif.
Mais
c'est fragile,
pas,
tu sais, c'est fragile, hein, 20 secondes, 30 secondes. Il suffit d'une attaque. Alors c'est sûr, c'est pas le panache, hein, mais s'il attaque à deux bornes, 40 secondes en deux bornes, ça se prend. Donc c'est serré, tu peux pas dire que le tour est fini. Pas parce que Froome a le maillot jaune que c'est fini.
Tous autour de la table, vous y croyez là? Tous?
Ah oui, ça va être dur.
Si on vous dit à tous, n'y croyez plus, rentrez chez vous, allez faire autre chose, jouer à la pétanque parce que c'est mort. C'est pas notre job non plus, hein, tu sais.
Non, je sais, mais moi j'ai très peur que malheureusement, ils ont plus que suivre les autres.
Bon, allez, après l'Ardèche, on verra.
Après
le chrono, le premier chrono, le lendemain du Mont Ventoux, on sera vraiment fixé si vraiment on enterre le Tour ou si on a un espoir.
Mais tu verras que non, j'ai pas trouvé Froome impérial, justement. Moi, je trouve que vous êtes un peu
moi, je l'ai pas
dur.
Trouvé impérial, je te dis,
Quintana n'a pas été impérial non plus,
il a rien montré. Ça dure longtemps, le Tour de France. Il va pas attaquer tous les jours, Nairo. Il a le soigneur Mario.
Ce serait bien une petite petite fois seulement.
Et pourquoi faire pour montrer qu'il a du panache?
Non,
on s'en fout du panache.
C'est pas pour le panache.
Il veut pas prendre le maillot, Christophe. Il veut gagner le Tour de France.
Arcalis, c'était trop roulant pour lui.
Parce que moi, je vais te dire, il a pas pris le maillot, tu sais pourquoi? Parce qu'il a pas l'équipe pour garder le maillot. Il laisse faire Sky et Froome. Il a pas l'équipe pour défendre ce maillot. Et quand il va être à 4-5 jours de l'arrivée, il va attaquer,
c'est pour ça qu'il a laissé Froome attaquer dans la descente, parce qu'il s'est dit, oulala, c'est bien qu'il prenne le maillot, moi j'en veux pas.
Non, non, là,
c'est
Vincent,
impose-toi, Vincent.
C'est écrit. Là, il vous vend bien, là. Et là, Jérôme est super. Et là, il est en train de vous acheter des outils.
Pour les mais non, et donc, on n'en a pas besoin, on en a trop.
Non, non, mais c'est super. Mais Jérôme, on se rappelle le samedi, la veille de l'arrivée?
Pas de soucis, je te passe mon téléphone en antenne. Tu verras, tu seras surpris.
J'espère être surpris, parce que c'est vrai que, voilà, aujourd'hui, on a eu une étape avec que des costauds devant.
Des vrais coureurs.
On aurait dit presque une classique, c'était super agréable. Voilà, c'est ça qu'on aime dans le vélo. Ouais. Et moi, j'ai pas envie de vivre des Alpes comme des Pyrénées, quoi. Franchement,
mais
j'espère
Vincent,
que.
Tu l'as dit, non plus, on dirait une classique, mais c'était une classique. Mmh. C'était une classique.
Non, mais Vincent, pour clôturer le débat, la traversée des Pyrénées a été quelque chose de très tactique, de très stratégique. Ça va pas pouvoir continuer très longtemps.
Exactement. Regardez l'année dernière à l'Alpe d'Huez, c'est là que Movistar a failli faire basculer le tour.
Allez, il reste de l'espoir, il reste encore des belles choses, on espère avoir. Merci Vincent d'être venu au 36. Tu reviens quand tu veux, hein. Tu reviens quand tu veux pour énerver Jérôme.
Déjà dans deux jours.
Hein, reviens Vincent, reviens.
Pour dire à Jérôme qu'il a eu tort.
Allez, dans un instant, la dernière partie de l'Intégral Tour. Mais non, enfin la dernière partie à partir de 20h, Thierry. Tu es de retour, toi, jusqu'à 20h30.
Eh oui.
Avec
oui.
ton compère Lucho.
Oh là. Lucho, bah oui, s'il est sorti de l'hamburger.
Allez, on revient dans un instant pour évoquer l'étape de demain, donc entre Carcassonne et Montpellier, avec un invité, le vent.
RMC, 19h20, Intégral Tour, Christophe Sessieux.
Toujours en direct de Revel au terme de cette 10e étape du Tour de France, remportée de main de maître par Michael Matthews devant Peter Sagan. Demain, eh bien, la 11e étape conduira le peloton de Carcassonne à Montpellier. On va évoquer cette étape en accueillant évidemment Benoît Boutron pour les paris.
PMU.fr, paris sportif, paris éthique, poker.
Rebonsoir mon cher Benoît.
Rebonsoir Christophe, rebonsoir à tous.
Alors on va faire un petit point sur les classements. Tout d'abord, ah oui, on n'avait pas donné nos pronostics.
Il faut être franc avec les auditeurs. Ouais. Malheureusement, on avait fait les paris que hier soir. Donc on avait seulement le pari de Jérôme Pinault. Bon, j'avais le même, donc on s'est trompé. On avait dit que Brian Coquard allait gagner.
Moi, j'ai dit tous les jours.
J'ai envie de te suivre. C'est ça le problème, Jérôme, c'est que maintenant j'ai envie de te suivre tous les jours. J'ai envie de donner Coquard tous les jours.
Donc là on est en moins encore, quoi.
Ah bah oui, là c'est. Là,
mais Coquard va rembourser, hein.
C'est une cata. Bon,
oui,
je vais lui envoyer la note.
Mais par contre, s'il gagne, bon.
Ah bah, s'il gagne.
Christophe, l'avantage, c'est que vous êtes pas trompé, oui.
Ah bah non, nous on n'a pas de vainqueur. Bon. On n'avait pas le nez pour cette étape. Alors exactement. Demain, donc c'est la 11e étape. Carcassonne-Montpellier, une étape assez courte, 162 500 km. Pas beaucoup de difficultés, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce sera plat, mis à part tout de même les deux petites côtes du début d'étape, la côte de Minerve et la côte de Villespassant. Voilà, deux quatrièmes catégories. Et puis ensuite, ce sera tout plat jusqu'à l'arrivée à Montpellier. A priori, ce sont les sprinteurs qui devraient s'imposer. Quelles sont les cotes des différents favoris?
Ça se ressent, hein, c'est vrai. C'est Cavendish le favori, messieurs, 2,90. Kittel à 3,10. Greipel à 5,60. Et Coquard, Jérôme Pinault, il est côté à 12. On va remettre une pièce, hein, aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses?
Tu vois, je lui porte malheur quand je parie pour lui, donc je vais pas parier pour lui. Non, parce que demain on annonce un peu de vent sur la
route. Oui, et c'est le seul danger de l'étape de demain, apparemment.
Eh oui, mais si on dit vent, on dit bordure, si on dit bordure, bien on sûr. Dit flamand, on dit belge, on dit gros gabarit, et à ce jeu-là, l'autosoudal de Greipel est la plus forte, donc moi je mets André Greipel.
5,60 pour Greipel.
Et en plus, André Greipel, il gagne une étape tous les ans. Même quand il passe au travers pendant 10 étapes, il en finit par en gagner une. Donc, ça.
Et oui, parce que la hiérarchie des sprinteurs évolue à mesure que le tour avance, hein, Cyril. C'est pas toujours les sprinteurs en forme du début de tour qui sont en forme dans la deuxième semaine et troisième semaine.
Ben, il y a ceux qui vont mieux récupérer que d'autres. Il y a un problème de récupération. Alors, c'est vrai au niveau des coureurs, des sprinteurs, c'est vrai aussi au niveau de leurs équipiers, parce qu'il faut pas oublier maintenant que on gagne pas un sprint tout seul, c'est assez rare. Il faut qu'il y ait quand même des équipiers solides autour. On l'a vu d'ailleurs avec Coquart qui se retrouve souvent trop esselé dans le dernier kilomètre et qui a du mal à rester au contact des meilleurs et est obligé de faire des véritables exploits pour venir se placer. Mais malheureusement, ça marche pas toujours. Effectivement, Greipel ouvre souvent son compteur dans cette région de la France. Donc c'est vrai qu'on pourrait le mettre, mais je vais pas le mettre pour faire.
Allez, bonne ça. Et tu manques vraiment pas de panache.
Pour pas copier, voilà. Parce que au départ, Christophe me copiait, donc je n'aime pas copier les autres. Donc moi, je jouerais Kittel parce qu'il a une vraie équipe. Si vraiment il y a des coups de bordure, ouais, pour passer.
C'est 3-10 à Marcel Kittel.
Il y a une image importante aujourd'hui dans le final de l'étape, dans le peloton, c'est qu'à un moment donné, ils se sont mis dessus un peu. Ils ont fait une bordure et Greipel a été dans le premier coup sans équipier. Il s'est relevé. Il a attendu, il a vraiment fait tranquille aujourd'hui, André.
Ouais, c'était une deuxième journée de repos pour notre ami le gorille de Rostock. Donc Marcel Kittel
pour Cyril.
Pour Cyril. Jérôme nous a donné André Greipel. Monsieur Bourgui, qui allez-vous nous donner?
Il va dire le petit gabarit qui passe sous le vent. Hein, le petit Cavendish, parce que là je le sens vraiment trop fort cette année.
Le favori, 2,90.
Ouais, ouais, bon, la cote est pas bonne, mais bon. Hein,
pour qu'il prenne le maillot, c'est ça?
Bah, il y a peut-être ça aussi qu'il a eu, hein, ce serait pas mal pour lui.
38 points d'écart, ça va être juste quand même parce que
non,
ça va
mais
être
bon, il y a celle-là.
Ne reste pas dans le top 10.
Cyril, en fait, si tu comptes bien, il y a celle-là et puis les champs. Hein.
Mmh. Oui, bon, peut moi je vais donner Coquart comme ça au moins.
Pourrait peut-être très éventuellement gagner.
Ok, c'est 12 un Coquart, c'est la plus belle cote proposée aujourd'hui.
Et c'est Sagan qui va gagner.
Arrivé en léger faux plat montant.
Sagan, c'est la même cote. Sagan, c'est la même cote, les gars. Ouais. 12.
Christophe, comme 16, Coquart. C'est pas mal.
Et vous n'avez pas pensé qu'éventuellement une échappée pouvait aller au bout?
C'est possible. Non, demain non.
Bon, le vent, ouais. 60 km/h, des rafales à 60 km/h, Cyril, hein, c'est ça?
Oh, plus de 40 demain. 40. Donc, de toute
entre
façon,
60 et 70, là, ils annoncent demain et après-demain. Hein.
Sur les 50 derniers kilomètres, là, ça sera bien dégagé.
Il n'y a pas un arbre.
Vent, trois quarts arrière.
Il y a des vignes.
Oui, mais les vignes, ça ne monte pas haut. Hein.
Ah, mais ouais, mais tu vois, c'est pour ça que j'ai parlé de Cavendish. Il n'y a que lui qui passe
la route du bord de mer, je le disais tout à l'heure, entre Agde et Sète, là, il y aurait eu du spectacle.
Ah,
là, non
oui, non, bah, on n'est pas au midi libre, hein, avec l'arrivée.
Il y a trop de monde dans ces régions-là, il y a trop de monde en vacances. Puis,
ouais, non, mais là, il risque d'avoir aussi des gamelles avec le
arrivée tortueuse,
tout,
hein, enfin, Montpellier. Ouais. Toujours arrivée tortueuse.
Peu importe, on connaît le menu de l'étape de demain, donc c'est pas la peine d'essayer d'aller à la carte.
Pas d'échappée sprint avec 50 coureurs.
Ah ben on va s'embêter alors.
Bon, eh ben nous verrons demain. Départ de l'étape à 13h35. Hein. Demain, c'est grasse mat pour les coureurs du Tour et pour les consultants vedettes de la Dream Team. Hein, ça va roupiller demain, Monsieur Pinot.
Ça va aller courir comme ce matin.
Oh là 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 là, c'est une machine. Ce mec est une machine. Ça, merci Benoît. On te retrouve demain, évidemment, pour les paris.
Salut Benoît.
Que ce soit Benji qui sera peut-être rentré de vacances.
Hein, il sera là, Benji.
Oui, évidemment. Oui. Merci Benoît. Voilà pour les paris.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Un cadeau, un magnifique cadeau, un cadeau de dingo. Assister à la 14e étape du Tour de France qui aura lieu samedi prochain entre Montélimar et Villars-les-Dombes dans des conditions VIP pour deux personnes. Ça rigole pas.
Chapeau.
Avec au programme le départ aérien privatif du Bourget pour se rendre au départ du village du Tour. Vous suivrez ensuite la course en véhicule officiel. Champagne à l'arrivée du vainqueur de l'étape. Retour
c'est le pack
aérien.
VIP, ça. C'est le pack VIP,
ah oui,
c'est Dexo, ça.
VIP, super VIP. Ah oui, on en parlait tout à l'heure.
L'embêtant, c'est que si t'arrives si t'habites dans le sud, tu montes à Paris pour descendre.
Juste pour prendre l'avion pour aller au Bourget. Voilà, en tous les cas, il y aura aussi toutes les collations au cours de la journée. Hein, donc, de quoi bien attaquer. Pour jouer et tenter de gagner cette incroyable journée, il faut envoyer le mot VIP par SMS au 732-16. Bonne chance. Voilà,
on peut jouer, nous.
Je sais pas.
Non,
mais il faut que tu rentres au Bourget d'abord. Ouais. Voilà, dans un instant, ça continue encore et encore jusqu'à 20h30, Martial.
Exactement. Oui, on garde Thierry Bourguignon avec nous d'ailleurs, puis on va voir le renfort de Lucho bien sûr jusqu'à 20h30. Le 32-16 ou le hashtag RMC Live qui sont ouverts pour revenir sur cette 10e étape et la victoire de Michael Matthews. Et puis à 20h30, le foot, on reviendra sur cette information RMC Sport, Lucas Digne qui va rejoindre Barcelone à corps trouvé, hein, entre le PSG et le Barça pour 20 millions d'euros. Puis la Ligue 1 avec les trentenaires qui viennent renforcer les clubs promus. On sera avec Franck Signorino, Florent Balmont et l'after ce soir, 21h, 23h, à tout de suite.